Noël.
Noël, c'est plus que des lumières.
Noël, c'est plus qu'une fête commerciale.
Noël, c'est plus qu'une fête religieuse.
Noël, c'est bien plus qu'une fête du partage, une question de partage, une question de générosité, une question de cadeau.
Noël, c'est aussi plus que simplement l'anniversaire de Jésus, comme le disait la petite chanson de nos petits-enfants dimanche dernier. Noël, c'est une invitation à contempler un moyen de grâce. Quand on dit moyen de grâce, c'est un élément que Dieu nous donne, que Dieu donne aux hommes pour communiquer sa grâce, pour communiquer son pardon. Dieu, c'est Dieu lui-même, créateur, source de la vie, lumière qui s'incarne dans le monde, qui vient dans le monde, dans l'histoire et le temps, en Jésus-Christ. Un monde où il n'y avait aucune lumière, un monde révolté contre Dieu. Mais la lumière est venue parmi nous pour nous montrer qui est Dieu et ce qu'il veut, nous sauver. C'est le prologue de Jean, ça. En se faisant homme, Dieu a fait irruption parmi nous. Noël, c'est donc l'invitation à contempler la gloire de Dieu en Christ, à nous émerveiller de cela. Cette incarnation, vous comprenez quand on dit incarnation? L'acte par lequel le Fils de Dieu a revêtu la condition d'homme. C'est incarné. Mais Noël, ça a aussi une autre implication, et c'est une application que je vous propose ce matin de voir ensemble, de regarder. Et c'est un passage de l'apôtre Paul à l'église de Philippe qui va nous lever le voile sur cette application. En quelques versets, il va nous présenter qui est Jésus-Christ. Mais pas que, vous allez voir. Alors, je vous encourage à prendre vos Bibles, et si vous n'en avez pas, prenez une Bible à l'arrière. Pour avoir le texte sur les yeux, on est dans Philippiens 2, et je voudrais inviter Françoise pour nous lire ce texte.
Philippiens 2, versets 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Alors ce texte, il est présenté comme le poème du Messie. C'est probablement un hymne chanté par les premiers chrétiens. Et Paul, dans ce passage, nous appelle à nous souvenir de l'exemple de Christ. Donc je vous propose de nous dire qu'en fait Noël illustre aussi la vie que le chrétien est appelé à imiter. Un chrétien est appelé à vivre, à imiter l'exemple de Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Et afin de pouvoir l'imiter, il nous faut le comprendre. Et afin de comprendre, il nous faut le méditer. Méditer ce qui s'est passé, ce que cela veut dire. Et c'est ce que je voudrais nous proposer ce matin encore en regardant ce texte combien riche. C'est un texte que Paul a écrit pour encourager les chrétiens de l'église de Philippe dans leur vie communautaire, de disciples de Jésus-Christ. Et Paul les encourage à imiter l'œuvre de Christ, à imiter ce qui s'est passé à Noël, ce que cela veut dire. Et c'est le verset 5 le dit clairement. Relisez avec moi. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Paul encourage les chrétiens à vivre comme leur Sauveur et Seigneur, comme il a vécu. Donc Noël, c'est pas juste un rappel, un souvenir de la profondeur de ce que Jésus a fait. Mais cette œuvre que Jésus a fait constitue pour nous, croyants, la plus grande source, la plus grande raison à imiter sa vie. Et c'est toute l'interpellation de Paul dans ce chapitre 2. Regardez et imitez l'exemple par excellence d'humilité de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Regardez à son incarnation. Regardez à cette venue, à cet exemple de renoncement, de don de soi, de dévouement, d'amour que Christ a prouvé en venant dans ce monde. Qui a vécu, Jésus-Christ qui a vécu dans l'obéissance et dans la soumission complète à son Père. Et le principe, il est là. La vie de Jésus illustre parfaitement ce que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui en tant que chrétiens, dans notre monde. Et la suite, les quelques versets que Françoise nous a lus, nous décrit ce que Jésus-Christ a fait et que nous devions nous inspirer, nous alimenter de ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est un véritable bijou. Et vous avez peut-être remarqué ce double mouvement dans le texte. Dieu qui descend dans l'humanité, l'abaissement, alors concrètement la venue de Jésus par cette naissance dans une crèche, et Dieu qui remonte dans sa gloire céleste manifestée lors de l'ascension. Et pour essayer de nous comprendre ces deux images, ces deux mouvements, je propose une image, la force de ce qui se passe. Pensez à un plongeur. D'abord, il commence à se déshabiller, il va jeter le regard en l'air et puis va disparaître par un plongeon dans l'eau. D'abord une eau bleue, chaude, verte, turquoise, là, comme sur les plages. Puis il va descendre de plus en plus profond dans l'eau noire, dans l'eau sombre, froide, sous quelques mètres d'eau. Il descend toujours, la pression devient grandissante. Il touche le fond vaseux de boue, de pourriture, d'algues. Puis remonte à la lumière, la couleur, comment ça, la chaleur. Les poumons sont prêts à éclater parce qu'il est resté trop longtemps. Puis brusquement jaillit le plongeur en dehors de l'eau, la lumière du jour, tenant à la main un objet qu'il venait de ramasser au fond. C'est en dehors de l'eau que le plongeur, que l'objet a repris tout l'éclat de la couleur. Au fond, il était au froid, dans la boue. C'est ce que Paul nous décrit ici, ce double mouvement pour parler de la vie de Christ. L'abaissement du Seigneur et l'élévation du Sauveur. Alors regardons ce texte sous ces deux points, sous ces deux aspects. L'abaissement humiliant du Seigneur, et on le voit du verset 6 au verset 8. Dans ces trois versets, on a une description d'une succession d'abaissement. On a l'impression que, boum, 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 on descend de plus en plus bas. Une véritable descente au fond qu'a vécu et manifesté Jésus-Christ. Et cela commence par une position de départ, une position élevée dans la lumière. Je relis. Lui qui est de condition divine. Lui dont la condition était celle de Dieu. Dieu était, Jésus-Christ était Dieu. Il est Dieu, il est égal à Dieu. Et en tant que Dieu, il n'avait besoin de rien. Il était bien là-haut. Il a toute la gloire. Il a toute la louange des cieux. Et pourtant, il est venu, il y a 2000 ans. Et Jésus, pendant sa vie, il n'a jamais minimisé, jamais nié sa divinité. Il a clairement évoqué cette relation privilégiée avec son Père, cette unité avec son Père. Mais Jésus ne s'est pas accroché à ses droits. Je suis Dieu. À ses privilèges. Et c'est ce que nous dit tout la suite. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Jésus ne s'est pas accroché. Il ne revendique pas ses droits pour son compte. Et Jésus a manifesté dans toute sa vie qu'il était soumis à la volonté de son Père et à l'action du Saint-Esprit. Tout en restant pleinement Dieu, il a refusé les privilèges divins. Je ne sais pas vous, mais on aurait pu attendre de la naissance du roi des rois, la naissance du Créateur. On pourrait s'attendre à ce qu'il naisse quand même dans une famille un peu plus importante, non ? Qu'il fréquente les meilleures écoles, entouré des cerveaux les plus brillants, qu'il ait des aides un peu plus capables autour de lui. Mais Jésus n'a pas pensé à lui-même quand il s'est abaissé. Il a pensé aux hommes. J'ai encore réfléchi, il est venu dans une famille modeste de modeste, il est né dans une étable. Alors nous, on est tous dans une maternité. Mais imaginez les hommes et les femmes qui aujourd'hui dans le monde naissent dans des conditions épouvantables. Ben, Jésus, il est descendu aussi bas pour se mettre à niveau de chacun d'entre nous. Son attitude démontre qu'il est désintéressé. Il a pensé aux hommes, il n'a pas pensé à lui-même. Certes, il n'a pas renoncé à ses attributs divins, à sa capacité de guérir, de pardonner les péchés, de connaître les pensées de nos cœurs. Mais c'était pour venir à notre aide, ce n'était pas pour sa gloire. C'était pour nous présenter que le salut était parmi nous. Il a renoncé à sa gloire céleste. Je propose qu'on puisse déjà, de cette première étape d'abaissement, ces premières étapes, réfléchir pour nous, nous questionner pour nous. Penser aux autres et non à soi. Bien évidemment, on n'a pas les attributs de Dieu. On commence déjà tellement bas quand on réfléchit. Et en plus, ceux que j'ai, je les ai par grâce. Mais ce peu, qu'est-ce que j'en fais ? Quand on réfléchit, on tient tellement à soi. On tient tellement à notre ego, à notre confort. Je suis maintenant quand même enfant de Dieu. J'ai des droits, j'ai des privilèges, n'est-ce pas ? Je m'y accroche. On dit que pour savoir que vaut vraiment un travailleur, confiez-lui des privilèges. Va-t-il les utiliser pour aider les autres et développer l'équipe à mieux travailler ? Ou va-t-il se servir de ses privilèges pour son propre avantage ? La parole de Dieu est remplie d'exhortations pour celui qui appartient à Dieu, pour celui qui a expérimenté l'amour de Christ, à aimer les autres, à vivre les uns pour les autres, plus de 20 fois dans le Nouveau Testament, à avoir de l'affection les uns pour les autres, à nous édifier les uns les autres, à de nous porter les fardeaux les uns les autres, de ne pas nous juger les uns les autres, mais de nous exhorter les uns les autres. Est-ce que mon prochain passe avant mes propres droits ? Ou est-ce que je vais d'abord me préoccuper de mes droits avant d'envisager de m'intéresser à lui. N'ai-je pas assez à faire avec ma propre vie ? Ne voit-il pas mes besoins que moi j'ai ? Jésus a manifesté sa soumission à Dieu en s'abaissant, en voyant le prochain comme plus important, en voyant comme tout ce qu'il était comme quelque chose pour gagner l'autre, pour lui manifester son amour, pour lui manifester son salut. Mais Paul poursuit au verset 3 et 4. On voit ce qu'il veut dire. Non, pardon, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Jésus-Christ a, oui, renoncé à ses droits de Seigneur pour nous les hommes, mais il prend volontairement encore une place différente de serviteur. Et littéralement, on pourrait même traduire d'esclave. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Le roi des rois, le Dieu, le Créateur prend la condition d'esclave des hommes. Ça veut dire un serviteur qui ne possède rien à soi, pas même le vêtement. Tout ce qu'il a appartient à son maître. Et quand on regarde avec soin la vie de Jésus, effectivement, il ne possédait rien. Il ne possédait ni terrain, il ne possédait ni maison, ni or, ni argent, aucun commerce, aucun bateau, aucun cheval. Il a même emprunté un ânon. Il a emprunté une chambre pour fêter avec ses amis la Pâque. Même son tombeau n'était pas à lui. Il n'avait pas de toit où reposer sa tête. Il a refusé tout bien. Lui, le Créateur, le Roi des Rois, est devenu serviteur des serviteurs. Il est devenu chair et eau, alors qu'il était Fils éternel, sans début, sans fin. Jésus n'a pas pris simplement l'apparence d'un homme. Il avait une identité d'homme. Il était tellement homme que ni sa famille, ni ses disciples n'ont pas compris qu'il était aussi Dieu. Et malgré les miracles qu'il a accomplis, ses ennemis l'ont rejeté parce qu'il ne pouvait que être homme. Il ne pouvait pas être plus qu'homme, mais il était Dieu, homme, Fils de Dieu. Il a pris sur lui toute la faiblesse, toutes les limitations qui sont les nôtres d'êtres humains. toutes les difficultés liées à la condition d'homme. Il est né d'une femme. Il est entré dans une généalogie humaine avec un commencement et une fin, alors que lui n'a ni commencement ni fin. Il a eu besoin de l'attention et du soin de ses parents. Il a eu faim, il a eu soif. Il a ressenti la douleur, il a ressenti la tristesse. Il a été fatigué, il a été faible. Il a eu besoin de dormir. Il est né dans une modeste famille, dans un humble endroit. Il a une vie ordinaire avec sa famille. Vous avez déjà réfléchi ? La parole de Dieu n'a pas considéré comme important pour nous, pour parler de Jésus-Christ, de ses 30 premières années, à peu près, à part quelques épisodes. Ce n'était pas nécessaire de l'évoquer. Aujourd'hui, quand on parle d'un grand homme, une biographie d'un grand homme, on commence à la naissance et on rappelle tous les événements marquants de sa vie de jeunesse. Mais pour Dieu, ce n'était pas nécessaire. C'était une vie. Les 12 hommes qu'il a choisis, ils étaient simples. Pas d'instruction, peu d'aptitude, peu de pouvoir. Ces hommes qui ont même refusé de prendre sa défense. Pourquoi tout cet abaissement ? Pour nous servir, pour nous aimer, pour s'identifier aux hommes. Jésus, à sa naissance à Bethléem, est venu en tant qu'homme s'unir à cette race humaine que nous sommes. Il ne joue pas juste un rôle. Le plus élevé de tous est devenu le plus humble de tous. Et dans les 4 évangiles, vous trouverez Jésus qui sert les autres et non l'inverse. Jésus sert, nous sert. Et il était au service de toutes sortes de gens. Quand on réfléchit, est-ce que j'aurais été prêt ? Il est au service des malades, des souffrants, des pêcheurs, des prostituées, des collecteurs d'impôts, des soldats romains. Matthieu nous dit ceci, au chapitre 20, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Dans la chambre haute, on connaît l'épisode, Jésus s'abaisse et lave les pieds de ses disciples. Il prend la place d'un domestique, lui le roi des rois. Voilà l'attitude qui révèle Jésus homme, que nous sommes appelés à imiter. Prêt à imiter Jésus-Christ comme ça ? Servons, servez mes amis. Qu'est-ce qui nous empêche de servir ? Si le Fils de Dieu l'a fait, qu'est-ce qui nous empêche d'être au service du prochain, des autres ? Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Sommes-nous prêts à nous astreindre aux tâches les plus humbles de service ? Celles qu'on ne voit pas. Ou est-ce que je suis simplement prêt à servir dans la mesure où cela ne me coûte rien de plus ? S'il y avait un prix à payer pour mon service, est-ce que je serais prêt à le faire ? Qu'est-ce que je suis véritablement prêt à donner, à laisser à Christ, à laisser aux autres, à laisser à l'Église, à laisser à ceux qui sont autour de moi ? Et la finalité de cet abaissement, verset 8, relisez avec moi, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Non seulement il s'est abaissé en tant que Dieu, il s'est abaissé en tant qu'homme, en tant que vis-à-vis, mais il s'est humilié. Et un épisode qui exprime très fortement l'humiliation, c'est son arrestation et son procès. On l'a abandonné. Il s'est retrouvé seul. On s'est moqué de lui. On l'a insulté. On l'a faussement accusé. On a craché sur lui. On l'a frappé à coups de poing. Mais il ne s'est pas défendu. Il n'a pas été amer. Il n'a pas rien exigé en retour. Il n'a jamais accusé qui que ce soit. Non seulement il a refusé ses droits en tant que Dieu, mais il a refusé ses droits en tant qu'homme. Vous trouvez ça normal ? On vous accuse injustement. On a des droits, non ? On me prive d'un bien, d'une liberté. On a des droits ? Non, Dieu, il a abandonné. Ce droit à l'intégrité physique, ce droit à une justice équitable, et cet abaissement ultime l'a conduit à la mort. C'était la volonté du Père et il s'y est soumis. Alors nous, ça nous paraît normal parce qu'on est assujetti à la mort. Mes amis, la mort, c'est la malédiction, la punition que repose sur les hommes rebelles au Créateur. Lui, la source de la vie. Il a subi le jugement qui était réfléchi de Dieu pour notre péché. Mes amis, la mort n'est pas un accident. Mais elle est la punition de Dieu, le fait de Dieu, qui est la limite que Dieu a fixée à notre rébellion vis-à-vis de son autorité. Jésus n'est pas mort en martyr, mais en sauveur. Et il a accepté de venir et de prendre cette mort, cette séparation terrible. Et le texte nous dit même la mort sur la croix. C'était la mort, et c'est la mort la plus terrible qui soit. Il n'a pas eu une belle mort, comme parfois on le souhaite pour nous. Jésus n'est pas mort au fond de son lit. Il n'a pas été lapidé. On ne l'a pas pendu, on ne l'a pas décapité, qui sont déjà des morts terribles, mais il a été mis à mort sur la croix. La plus cruelle, la plus atroce, la plus douloureuse, qui dure des heures et parfois des jours. C'est la mort la plus humiliante. Vous êtes nus pour les hommes. Celle que les Romains réservaient aux esclaves. Quand vous étiez citoyen romain, vous n'étiez pas mis sur la croix, même si vous étiez un criminel. Et pour les Juifs, on considérait cette mise au bois comme une malédiction. Si tu exécutes, on le lit dans Deutéronome 21, si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, donc sur le bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu. Maudit de Dieu, et tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Cette mort terrible de Jésus-Christ signifie qu'il est même en dehors de l'alliance de Dieu. Il est exclu. Il est impur. Il est exclu des bénédictions de Dieu. Il est au plus loin. Mais en perdant sa vie, on le sait, on le dit, on le proclame, Jésus la donne volontairement. Il donne sa vie pour nous pécheurs. Il est mort ainsi pour porter la malédiction au plus profond, dans la boue, dans la merde. C'était le seul moyen de salut pour l'humanité rebelle, qui que l'on soit. Cette mort était sanglante, comme elle était les sacrifices de l'Ancien Testament, pour symboliser cette réparation entre un Dieu saint et les hommes. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et nous, comment on regarde cet exemple? Ce prix qu'il en a coûté de Christ. Sacrifiez-vous, mais le pouvons-nous? Est-ce qu'on proclame une foi bon marché? Est-ce qu'on a une foi qui coûte? Notre obéissance à Dieu, est-ce que ça coûte? Mes amis, il y a un prix à payer pour servir le Seigneur. Ce texte le démontre. De mettre à mort tout ce qui n'honore pas l'honneur de Dieu, la mise à mort de son ego. Quelles sont toutes ces choses que nous considérons nécessaires à notre épanouissement en dehors de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à les laisser tomber? Ça coûte de reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Ça coûte qu'on a besoin de reconnaître le besoin des autres. Mes amis, la Bible nous dit qu'on n'est pas autonome, qu'on a besoin des uns des autres. C'est le sens de l'Église. C'est un endroit où on apprend les uns avec les autres. La vie chrétienne n'évite pas les sacrifices pour la gloire de Dieu et le bien des autres. Service et sacrifice vont de pair, mes amis. Ce sera peut-être le refus d'une promotion excellente, alléchante, qui vous aurait peut-être permis de vous sortir un peu mieux à la fin du mois, mais qui vous aurait conduit à des horaires qui vous éloignaient d'un temps précieux avec la famille, avec l'Église, les amis. Cela coûte de devoir démissionner d'un travail qui vous met dans des attitudes, dans des situations qui ne sont pas à l'honneur de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à faire de grandes choses pour le Seigneur? On dit souvent oui dans les chants. Prends ma vie. Est-ce que nous sommes prêts à voir de grandes choses sans sacrifice? C'est pas possible. Regardez à Jésus-Christ. Et c'est l'un des paradoxes de la vie chrétienne. Plus nous donnons, plus nous recevons. Quel sacrifice, mes amis, je suis prêt à donner pour celui qui a tout lâché pour me donner la vie? Un petit quelque chose? Ce dont je suis sûr, dont je n'ai pas besoin? Vous savez, le sacrifice ne se mesure pas, ne se mentionne même pas. Celui qui est en train de compter son sacrifice n'a pas l'esprit d'humilité dont la Bible parle. Être chrétien, c'est un coût. Montre-moi ton planning. Montre-moi ta gestion de ton temps. Montre-moi la gestion de tes biens. Montre-moi la gestion de tes choix. Et nous verrons ce qui est à tes yeux important, vraiment important pour toi. Jésus, la lumière, la vie, s'est abaissé et mort. Et puis plus brièvement, je vous propose de voir cette élévation, cette gloire magnifique, inégalée dont Jésus a été l'objet à l'issue de cet abaissement. l'élévation glorieuse du Sauveur. Quelle remontada, on pourrait dire. Et ce passage illustre ce double mouvement de l'œuvre de Jésus-Christ. La profondeur de l'abaissement et la hauteur de l'élévation. D'esclave à Seigneur, de mort à la vie, du rejet à la pleine acceptation de Dieu, d'une vie limitée en tant qu'homme à une vie illimitée, éternelle. Et c'est ça le message de l'Évangile, mes amis. Sans ces deux extrémités, il ne pourrait pas être complet. S'il avait été simplement homme, la distance infinie avec Dieu serait la même. S'il avait été simplement Dieu, la distance qui le sépare entre nous serait la même. Mais en faisant le lien comme médiateur, il a comblé ce fossé. Il est venu nous chercher et nous a ramené la lumière. Le Dieu infini et l'homme fini. Il descend, lui, Dieu, être absolu dans l'espace et le temps, dans l'humanité. Il descend pour renaître et faire remonter jusqu'à lui l'ensemble du monde cassé. Complètement Dieu, complètement homme. Et dans le ciel, Jésus ne s'est pas dépouillé de son humanité qui s'est sacrifiée. Au contraire, nous voyons les marques de son sacrifice. Il est homme pour l'éternité. La parole qui est devenue chair, l'humble serviteur incarné, a été élevé à la plus haute position de Seigneur tout-puissant et souverain, supérieur à toutes les créatures. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu lui a donné toute autorité, un nom qui est au-dessus de tous les noms, où les peuples de toute langue le reconnaîtront. Et pour cela, il mérite toute notre adoration. Et nous pouvons le faire, le confesser dès aujourd'hui pour ceux qui ont eu une œuvre à salut dans le cœur. Mais si ce n'est pas fait, un jour nous serons obligés, le texte nous le dit, de courber la face contre terre. Et il sera malheureusement trop tard. Et c'est grâce à cette élévation glorieuse que nous avons l'assurance de notre salut, que notre place au ciel est à jamais garantie. La mort n'a pas pu le retenir. Paul est en train de nous dire, on n'est pas en train d'imiter un mendiant. Dieu nous appelle à imiter un Dieu glorieux. Vivons à sa gloire, glorifions Dieu pour son honneur. Le but ultime de notre salut, c'est la gloire de Dieu. C'est de marcher à sa suite pour sa gloire. Et cela passe par cette humilité auquel Paul nous appelle. Il n'y a pas de place pour l'orgueil, il n'y a pas de place pour un amour propre. Il n'y a pas de place pour celui qui revendique ses droits. Il n'y a pas de place à poursuivre nos intérêts personnels démesurés. Jésus a dit dans Matthieu 21, « Quiconque s'élève sera abaissé. Et quant à ceux qui s'abaissent, Dieu promet qu'ils seront élevés par le Père céleste. » Waouh, c'est le même mouvement. Le même mouvement de Jésus-Christ pour ses enfants. Alors oui, aidons les autres, servons le Seigneur, prenons part aux souffrances de Christ. Et cela ne sera pas exemple de larmes. Il n'y aura pas que de la joie ici-bas, mes amis. Mais laissons cette lumière de l'Évangile, des renversements, briller dans nos vies. Quand Jésus reviendra, c'est le serviteur fidèle dans les petites tâches qui sera récompensé. Jésus l'a annoncé. Alors ce matin, je voudrais nous laisser cette question. Qui imites-tu? Qui imitons-nous? Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et quand on voit cette petite description de Paul, quel exemple! Jésus-Christ est exemple parfait. Il n'y a pas de meilleure illustration de ce que Dieu attend de nos vies. Et Paul est clair dans cette exhortation. Dans tout ce vaste monde, dans tous les récits qu'on peut trouver, il n'y en a aucune pareille démonstration d'humilité, d'effacement de soi, que lorsque le Fils de Dieu, par pure grâce, est descendu dans ce monde. Et c'est ce qu'on fête à Noël. Son incarnation est le miracle central de notre foi. Et cette incarnation de Christ, ce n'est pas juste un sujet de joie, mais devrait être nous émerveiller et nous encourager à entrer dans ce qu'il a fait. Christ, notre rédempteur, oui, mais Christ, notre exemple. Vous allez vous dire, fou, le modèle, c'est du level. Mais la foi de notre Seigneur a été tellement ferme dans son abaissement, de sorte que nous puissions avoir la vie par son sacrifice. Si ce n'avait pas été le cas, on serait mal. Mais on a un exemple. Dieu peut nous appeler à vivre cette vie-là parce que Jésus l'a d'abord vécu lui-même. Et il la déverse sur nous. Et il nous l'accorde. Il nous offre, oui, un modèle, une illustration de ce que nous sommes appelés à vivre, une vie de foi dans l'œuvre de son Père. Une vie que nous pouvons vivre, mes amis, mais qui commence par se laisser dépouiller pour être rempli de l'œuvre de Christ. Parce qu'il a vécu parfaitement ce que nous étions. Et nous serions incapables de le faire sans lui. Il l'a fait. Oui, il peut nous aider à suivre ses propres traces. Il veut l'appliquer sur nos vies. Et il l'a dit. On peut vivre cet exemple d'abaissement et d'humilité, et on en a dans l'histoire de l'humanité des beaux exemples des gens qui se sont abaissés. Mais ils ne se sont pas abaissés parce qu'ils sont appuyés sur leur force, parce qu'ils sont... Christ les a qualifiés par grâce, par son œuvre. Mes amis, notre célébration de Noël... Oui, c'est la démonstration visible de cette grâce de Dieu fait homme, de Dieu qui s'abaisse, de Dieu qui nous offre le salut. Mais c'est aussi l'exemple que nous sommes appelés à vivre, à suivre. Je voudrais relire ce passage de Paul, parce que la parole de Dieu vaut tous les discours. Et je voudrais juste prendre un peu avant. Au verset 2, « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité. » Ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui était de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin préservé, mais il s'est dépouillé. Lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors je voudrais nous souhaiter à chacun un joyeux Noël, un Noël qui est riche dans une vie qui se donne à Dieu, une vie qui se donne pour les autres, à l'image de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous lors de cette venue.